Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est clair et net, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. C'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans estiger. M'a coupé les jambes, et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Merci. Chers éditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net, pour le reste du monde. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur, et honneur c'est un mot faible, vu le sujet qu'on traite aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Louise Tassin. Louise, bonjour.
Bonjour.
Alors Louise, je te reçois pour ton livre À la découverte. Dans la collection L'envers des faits et comme on les enferme dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa. Comment on les enferme? Pourquoi un titre pareil pour parler des centres de rétention?
Alors, ce livre, c'est un livre qui est issu d'une thèse que j'ai menée en sociologie sur l'enfermement des étrangers en situation irrégulière et donc sur ce qu'on appelle couramment les CRA, à savoir les centres de rétention administrative. Et je dirais que l'enjeu premier, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la question de la lutte contre l'immigration dite irrégulière, elle occupe une place centrale dans la scène politique et médiatique à chaque campagne électorale, à chaque fait divers impliquant un étranger extra-européen, les objectifs d'expulsion et les OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, reviennent comme un leitmotiv sur le devant de la scène. Or, on en sait finalement assez peu sur les centres de rétention qui sont les piliers de ces politiques migratoires. Il y avait donc là un grand sujet à traiter.
Un grand sujet que tu as traité brillamment.
Merci beaucoup.
Et si j'ai le temps, je t'expliquerai pourquoi à la fin de l'émission. Alors Louise, je voudrais que on dise bien aux gens que les centres de rétention administrative sont de droit administratif et pas le droit pénal.
Eh ben, merci d'insister là-dessus parce que je pense que c'est effectivement un des plus grands enjeux, sinon le plus gros enjeu quand on parle de rétention administrative. Et c'était bien en filigrane aussi l'un des objectifs de mon livre que de venir questionner la banalisation croissante de ces lieux qui prévoit le recours à de l'enfermement sur un modèle qui est quasi carcéral. Hein, on y reviendra, mais il faut bien se représenter ce que sont les centres de rétention. Ce sont des lieux d'enfermement dont l'organisation spatiale et le système même ont tout du système carcéral. Et donc une forme d'enfermement qui vise à détenir une population pour une raison uniquement administrative. C'est-à-dire qu'en droit commun, on ne peut être privé de liberté que si on a commis un crime ou un délit, une infraction. Or, pour les étrangers en situation irrégulière, il y a un système dérogatoire qui permet de les priver de liberté, qui permet de les enfermer uniquement pour un motif administratif qui est l'absence de titre de séjour.
Alors, il y a une connotation coloniale et je suis contente que tu l'aies relevé dans ton livre, parce qu'on oublie de dire que les centres de rétention administrative au XXe siècle ont servi d'abord pour les Espagnols qui franchissaient la frontière du fait de la Révolution espagnole et de la prise de fonction de Franco. Et ensuite, ça a été les populations juives avant leur déportation dans les camps de la mort.
Absolument. Et effectivement, avant ça, il faut bien voir que l'enfermement administratif s'inscrit dans une histoire ancienne, une histoire sur le temps long, qui est celle de la mise à l'écart des populations construites comme indésirables, les populations pauvres, les populations malades, les personnes désignées comme ennemies politiques, et plus particulièrement la rétention, puis sa source dans l'internement colonial, notamment en Algérie, où à l'époque c'était une forme d'enfermement qui était justifiée comme une réponse provisoire, justifiée par une situation de crise. Et en fait, cet enfermement dérogatoire, peu à peu, s'est généralisé. Il s'est généralisé aux métropoles et on a commencé à utiliser l'enfermement administratif, en effet, d'abord pour détenir les réfugiés espagnols en 1938, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, les populations juives, les populations désignées comme ennemis politiques, et au sortir de la guerre, la main-d'œuvre étrangère que pourtant la France avait appelée de ses voeux, et peu à peu, les centres de rétention ont commencé à être utilisés comme ce à quoi ils servent aujourd'hui, mais d'abord dans des lieux tenus secrets à l'abri des regards. Et il faut attendre 1975 pour qu'un scandale public éclate par le biais d'un journaliste qui met à jour l'existence dans le môle d'Arinque sur le port de Marseille, d'un lieu dans lequel, pendant une dizaine d'années, des étrangers ont été enfermés pendant quelques jours à quelques semaines, sans aucune protection juridique en vue de leur expulsion. Et donc en fait, en 1981, c'est le Parti Socialiste qui va créer la première loi qui officialise les centres de rétention, au départ précisément dans une logique en fait, de protection des droits pour encadrer cet enfermement qui ne l'était pas et le limiter dans le temps. Sauf qu'en fait, cette loi, eh bien, c'est la première pierre d'un dispositif tout répressif, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque la durée de rétention depuis n'a cessé d'être prolongée, passant de 6 jours à 10, puis 12, puis 32 jours, puis 45 jours, puis aujourd'hui 90 jours. Mmh. Et une loi actuellement en cours de discussion envisage d'étendre à 210 jours, c'est-à-dire à 7 mois, l'enfermement administratif, la durée maximale de l'enfermement administratif.
Et ça, c'est pour ceux qui sont sujets dangereux. Comme si le fait d'être sans papier était dangereux.
Exactement. On revient à cette question de l'amalgame entre étrangers et délinquants. Et c'est effectivement un des axes transversaux de mon livre que d'aller questionner cette criminalisation des étrangers qui est produite par le recours à l'enfermement pour cette population. Et donc ça crée une forme de criminalisation dans l'espace public, mais aussi dans l'esprit de celles et ceux qui y travaillent. On y reviendra. Mais sur la question effectivement de la durée maximale d'enfermement, Aujourd'hui, seules les personnes condamnées pour actes de terrorisme peuvent être enfermées jusqu'à 210 jours. Et le projet actuel vise à comprendre aussi dans cette... à autoriser l'enfermement jusqu'à 210 jours, y compris pour un motif de trouble à l'ordre public, qui est dénoncé notamment par les associations et les juristes comme un motif extrêmement flou, permettant du coup d'enfermer des gens...
Tout le monde,
voilà.
Tout à fait. Alors, on va... donner des chiffres. On va rentrer dans le dur. Il y a 25 centres de rétention administrative en France. Il y a 25 locaux de détention. Donc, tu as obtenu le prix moyen que coûte une personne. Et tu as fait le calcul au mois. Donc, ce serait autour de 43 euros. Alors, que je regarde mes notes.
Alors, en fait, les chiffres de la Cour des comptes, d'après la Cour des comptes, un rapport qui a été publié en 2023, le coût de la lutte contre l'immigration irrégulière, il est estimé à 2 milliards d'euros par an. Le coût moyen d'un placement en rétention à 16 200 euros. Voilà, exactement. Et ce à quoi tu fais référence, c'est ce que me dit un des représentants de la préfecture que je rencontre dans un des centres de rétention que j'ai étudié en France, en région parisienne.
À Molnay,
voilà, que j'ai appelé Molnay, qui, lui, essaye de passer en dessous de la barre des 40 euros par jour et par retenue. Et ça, c'est un chiffre qui ne compte que les prestations privées, externalisées. On y reviendra.
Bien. Alors, une fois qu'on a, parlé de tout ceci, on va aborder la dépolitisation de l'enfermement, en fait la sous-traitance, et on va aborder le profil des personnes qui travaillent dans les centres de rétention. On n'imagine pas à quel point c'est une machinerie bien huilée.
Absolument. Alors peut-être juste avant de commencer là-dessus, par rapport aux chiffres, je pense que ce qu'il faut dire aussi, peut-être d'emblée, d'entrée, c'est que donc ces dispositifs-là, ces centres de rétention, ils coûtent donc, ils représentent un gros budget du point de vue, une grosse somme du point de vue des budgets publics. Et pour autant, ce sont des dispositifs qui ne répondent pas très mal aux objectifs qu'ils se fixent, puisque moins de 40% des personnes enfermées en France sont expulsées, et parmi elles, près de la moitié le sont au sein même de l'Union européenne, en raison de règlements, notamment le règlement Dublin, qui permet de renvoyer les étrangers dans le premier pays dans lequel ils ont été identifiés. Donc un dispositif très coûteux, qui ne répond pas à ces objectifs, et qui, par ailleurs, en revanche, ce sont des lieux attestés de violation des droits, d'atteinte aux droits. Atteinte aux droits qui sont attestées non seulement par les acteurs associatifs qui sont mandatés pour y intervenir, mais aussi par des observateurs indépendants comme le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de liberté.
Et okay, Madame Simonneau.
Voilà, exactement. Et donc c'est vrai qu'un de mes objectifs, moi, en partant de tout ça, c'était de comprendre en fait donc la normalisation croissante de ces lieux et de comprendre comment est-ce que c'est possible que ces lieux tiennent, se maintiennent, soient renforcés. Au regard de tous ces problèmes qu'ils soulèvent. Et pour répondre à cette question, je me suis intéressée aux petites mains qui travaillent dans les centres de rétention, c'est-à-dire aux professionnels qui interviennent au quotidien dans l'idée de documenter les pratiques ordinaires de ces lieux. Une de mes premières surprises, il y en a eu plusieurs, mais une de mes premières surprises, ça a été en effet de constater le rôle que jouent les acteurs privés en rétention. Le contrôle migratoire a été historiquement construit comme une prérogative régalienne, c'est-à-dire comme un domaine associé à la souveraineté des États. Et pourtant, on se rend compte, et je me rends compte au fil de mon enquête en France, en Italie et en Grèce, parce que donc j'ai fait des enquêtes qu'on appelle ethnographiques à la fois en région parisienne, sur l'île de Lampedusa qui se situe à l'extrême sud de la Sicile et sur l'île de Lesbos qui est à la frontière gréco-turque. Et en fait, au cours de mon enquête, je me rends compte que des acteurs privés, des acteurs non étatiques jouent un rôle très important. En France, je me disais bien qu'il y avait peut-être quelques prestataires de services qui intervenaient, mais dans les arrières-cuisines ou comme dans plein d'autres institutions publiques, depuis le milieu des années 80 et le tournant néolibéral, il y a eu une forme de mise en marché de l'action publique. En revanche, ce que je constate en fait en arrivant et en passant du temps auprès des gens qui travaillent dans ces lieux, c'est qu'en fait, il y a des prestataires privés qui interviennent et il joue un rôle central. Dans le centre de rétention de Molnay, il y a à peu près 200 policiers et il y a en fait une soixantaine d'agents privés. Et ces agents privés, ils s'occupent de la restauration, ils s'occupent de la buanderie, ils s'occupent du nettoyage, mais ils s'occupent aussi d'un service qui s'appelle l'accueil. Alors attention, bien sûr, l'accueil entre guillemets, puisque c'est un dispositif qui contraste pleinement avec les réalités coercitives de ces lieux. Et de façon plus générale, il y a toute une terminologie, tout un vocabulaire qui est utilisé dans ces centres de rétention et qui vise et qui contribue à édulcorer, à minimiser les dimensions contraignantes et coercitives de
ces
lieux.
C'est un langage qui tient à l'hôtellerie.
Exactement. Et en fait, ça le précède. C'est-à-dire que dès 1981 et dès la mise en place des centres de rétention, il y a vraiment un effort qui est fait en termes de nomenclature, de vocabulaire pour distinguer la rétention de la prison auquel ces rétracteurs ne cessent à raison de
les comparer. C'est vraiment la nouvelle langue.
C'est la nouvelle langue institutionnelle. On parle de rétention et pas de détention, de retenue et pas de détenue, de chambre et pas de cellule, de fugue et pas de prison, de salle de visite et pas de parloir, etc. Et en fait, le recours à des prestataires privés vient redoubler cette terminologie par l'introduction dans le dispositif d'un vocabulaire qui a trait où on va parler de prestations hôtelières, on va parler de séjour, etc.
De servir.
De service, exactement.
Voilà, c'est hallucinant. Mmh. Alors, comment... Il faudrait peut-être revenir au tout début. Comment une jeune femme, promise à un bel avenir, se lance dans une thèse sur la rétention ?
Alors,
il faudrait que tu te présentes.
Oui.
J'ai oublié de te laisser le temps. Je t'ai mise tout de suite sur les rails.
Alors, effectivement, donc je suis sociologue. Je suis aujourd'hui post-doctorante dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le CESP à Paris 1. Et je suis aussi associée à un autre centre de recherche qui s'appelle le Centre d'études de l'emploi et du travail, le CEET. Et je suis également membre du réseau euro-africain Migre Europe, qui est un réseau qui rassemble à la fois des chercheurs et des associations et qui vise à produire et à diffuser une analyse critique des politiques migratoires. Et j'ai travaillé notamment, mais ça remonte un peu à quelques années, mais j'ai pas mal travaillé avec le groupe Cartographie, qui visait à recenser et à cartographier les centres de rétention dans l'Union européenne, parce qu'en fait, il y a très peu de données qui existent. Et donc, les données, elles sont à produire. Et donc, c'est vraiment le résultat d'un travail de fourmi mené par des collectifs militants, des réseaux associatifs, etc. Et moi, comment je me suis intéressée à tout ça au tout début, ça a commencé quand j'étais en master. J'étais en master à Paris et en fait, à proximité de la faculté dans laquelle j'étais inscrite, a eu lieu une arrestation massive de sans-papiers suite au délogement d'un foyer de travailleurs. Et en fait, à l'issue de ce délogement, qui est un délogement qui en plus s'est fait brutalement à 6 heures du matin, il y a une quarantaine de sans-papiers qui ont été arrêtés. Et un collectif de soutien local constitué d'habitants et en partie du coup d'étudiants s'est mis en place. Et je me suis retrouvée aux audiences. Or, au cours de ces audiences, en fait, cette quarantaine de sans-papiers, ils avaient été divisés en deux groupes. Et donc, leur situation était examinée dans deux chambres contiguës par deux juges différents. Et en fait, dans la première chambre, le juge a identifié un vice de procédure, donc un problème au cours de la procédure d'arrestation, de délogement, etc. Et à ce titre, a libéré tous les sans-papiers qui étaient face à lui. Dans l'autre chambre, à l'inverse, ce vice de procédure n'a pas été retenu. Et donc, le juge a prononcé des OQTF à l'encontre de tous les étrangers présents qui se sont retrouvés ensuite placés en centre de rétention. Et donc, pour moi, je pense que ça a été une des premières confrontations aux réalités rugueuses du droit des étrangers, aux formes d'arbitraire dans la mise en œuvre du droit, et voilà, la manière dont il pouvait y avoir aussi une application différenciée du droit des étrangers en fonction des juges, etc. À la suite de ça, j'ai rencontré des membres d'une association, et donc j'ai commencé à travailler bénévolement avec eux pour aider des sans-papiers dans des permanences, mais j'ai assez rapidement déchanté parce que je me suis rendu compte que cette activité, elle relevait plus d'un travail administratif, voire bureaucratique, que de la lutte contestataire à laquelle j'aspirais. Et j'en ai fait un premier mémoire de recherche, en fait, sur les ambivalences de l'aide aux étrangers et la façon dont parfois des formes de domination peuvent être reproduites dans ce type de cadre. Et en fait, après ça, je me suis plutôt dirigée vers des collectifs autonomes de sans-papiers.
C'est bien pour ça que les sans-papiers s'organisent de façon autonome et libertaire, quelque part,
exactement,
en autogestion.
C'est ça.
Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont instrumentalisés.
Absolument. Et donc, j'ai passé pas mal de temps avec le 9e collectif des sans-papiers. Et je me suis aussi documentée sur les révoltes qui avaient lieu en centre de rétention, à l'intérieur, les émeutes dans les centres de rétention, qui sont vite décriées, décrédibilisées, délégitimées dans l'espace public, parce que souvent, elles peuvent être taxées de violentes, elles peuvent se diriger notamment contre les locaux dans lesquels ces gens sont enfermés, etc. Et du coup, je me suis intéressée à tout ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers entretiens avec des policiers en centre de rétention. Et à l'issue de toutes ces expériences, j'ai eu envie pour ma thèse de changer un peu de braquet et de ne plus me situer du côté des dominés, des gouvernés, mais d'aller regarder les gouvernants, les dominants, et donc de m'intéresser aux mécanismes du contrôle et à ses acteurs, avec l'idée un peu de saisir les pratiques ordinaires de l'enfermement des étrangers et de détricoter les mécanismes de contrôle qui s'y jouent.
Alors, ça a été un véritable parcours de combattant, excuse-moi, parce qu'il faut demander la permission avant de rentrer dans un centre, quand on a des papiers, si je veux dire.
Oui,
tout à fait. Donc, explique ton problème.
Effectivement, il faut savoir que les centres de rétention sont très difficiles d'accès. Alors bon, déjà d'un point de vue matériel, effectivement, pour les gens qui veulent rendre visite, c'est souvent compliqué parce qu'ils sont souvent installés aux périphéries des villes, très peu indiqués, ou alors au sein des villes, mais cachés derrière les murs, etc.
Alors ça, c'est valable, pour que ce soit à Lampedusa ou à Lesbos, c'est valable dans toute l'Europe. Les centres de rétention sont en dehors des regards.
Absolument. Et ils prennent des formes très différentes. C'est-à-dire que si on regarde à l'échelle européenne, ça va du container à moitié abandonné dans un port à des centres ultra sécurisés de 5000 places, financés par l'Union européenne, avec des technologies de pointe, des détecteurs de mouvement high-tech, etc. Donc on a vraiment une variation très large des formes que prend aujourd'hui l'enfermement des étrangers, et en même temps une logique commune qui est celle de la mise à l'écart de ces populations considérées et construites comme indésirables, et surtout par le recours à l'enfermement. Et d'ailleurs, ça a été un des grands constats aussi, moi, pendant ces enquêtes, ça a été de voir à quel point, en fait, l'expérience des étrangers que je rencontrais, des étrangers enfermés en France, en Italie, en Grèce, à quel point cette expérience, elle était commune, alors même que les conditions matérielles d'enfermement étaient très différentes, avec des standards, évidemment, de normes qui n'étaient pas les mêmes. Et pour autant, en fait, partout s'exprimait le sentiment d'injustice lié au sentiment d'être traité comme un criminel. Et donc, on retrouve cette question de la criminalisation qu'on a évoquée tout à l'heure. Maintenant, sur la question de comment est-ce que j'ai pu effectivement accéder à ces lieux. Donc, je disais, ils sont difficiles d'accès matériellement, mais ils le sont aussi en termes d'autorisation. Ils sont difficiles d'accès aux journalistes, ils sont difficiles d'accès aux associations.
Et pour cause.
Aux associations en dehors de celles mandatées pour y intervenir. Et ils sont difficiles d'accès aux chercheurs. Si bien qu'il y avait quand même, quelques recherches. Je pense notamment aux travaux vraiment fondateurs d'un chercheur qui s'appelle Nicolas Fischer et qui a travaillé, lui, sur le droit, notamment le rôle de la CIMAD et la manière dont l'intervention croissante d'acteurs juridiques, d'acteurs de soutien juridique aux étrangers, a aussi reconfiguré les pratiques du contrôle. Mais donc voilà, moi, mon objectif, c'était vraiment d'essayer d'y entrer en tant que chercheuse, pour notamment pouvoir documenter le travail de la police et le quotidien de ces lieux. Et donc pour ça, j'ai sollicité les autorités ministérielles et la préfecture. Mais ça n'a pas été de tout repos.
Raconte-nous ça.
Eh bien, j'ai fait... Alors bon, ça a été, dans les trois pays, ça a été très difficile. Si je me concentre là sur le cas français.
Oui.
J'ai essuyé plusieurs silences Donc, on ne me répondait pas. Ensuite, des refus. Et finalement, je suis parvenue à obtenir l'autorisation, mais en me réadaptant aux objections qui m'étaient faites. Et le premier refus qui m'a été, enfin, premier refus justifié qui m'était été formulé, ça l'était au nom du bon fonctionnement de l'institution et du respect de l'intimité des personnes retenues.
Ben voyons.
Voilà. Donc, quiconque connaît un tant soit peu les centres de rétention, même sans y avoir jamais mis les pieds, on sait que c'est un argument fallacieux par excellence, parce que s'il y a bien quelque chose qu'il n'y a pas en centre de rétention, c'est le respect de l'intimité.
Tout à fait.
Donc voilà, ces difficultés, ça a été des obstacles pour ma recherche, mais elles disent quelque chose de à quel point les centres de rétention sont tenus à l'abri des regards, à quel point il y a ces remparts qui maintiennent ces lieux dans l'opacité.
Et à l'abri du débat démocratique.
Et à l'abri du débat démocratique, absolument. Et ça, c'est quand même, je trouve, une grande différence aussi avec la prison. En général et en particulier sur ces questions de privatisation, c'est que voilà, les réformes liées à la prison, elles ont fait l'objet de débats publics, notamment il y a eu tous les projets de gestion délégués des prisons qui ont été débattus publiquement, ce qui n'a pas du tout été le cas en général des réformes des centres de rétention et en tout particulièrement sur le rôle accru des acteurs privés. Mais donc, voilà, je me suis adaptée à ces réponses et j'ai refait une demande en, cette fois-ci, sollicitant l'autorisation de rencontrer les acteurs de chaque service et de pouvoir négocier avec eux, de les observer, mais sur un temps court, parce que la première fois, j'avais demandé à passer 2 mois dans le centre de rétention. Et en fait, là où a été ma chance, c'est que j'ai reçu une réponse positive, mais qui était très succincte, vraiment un document de quelques lignes disant « Madame Tassin, vous nous avez de nouveau sollicité, nous sommes heureux de nous annoncer que nous accédons à votre demande et nos services vont prendre contact avec vous rapidement ». Et donc en fait, quand je rencontre pour la première fois le chef du centre de rétention de Molnay, il a dans ses mains cette autorisation, mais je pense qu'il n'a pas pris ou pas eu connaissance des échanges qui ont précédé. Et donc, finalement, je vais pouvoir négocier avec lui ma présence et passer plus de 4 mois dans ce centre de rétention avec une présence quotidienne et en ayant finalement une liberté de déplacement et de recherche complètement inédite.
Inouï. Merci, Louise. On va faire une pause et on va venir dans le dur. On va expliquer le centre de rétention tel que tu l'as documenté dans ton livre, que je rappelle, comment on les enferme dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa à la découverte.
Débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle, des silences cacophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules, moi te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel, galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer, je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. De liberté pour les différents hommes, des valises d'exilés, des juifs errants et des roms, aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée, caravane d'apatrides, beau people, caravelle. Sur tes frontons, Paris vient lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine, capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, nous sommes sur Radio Libertaire, 89.4 FM. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Louise Tassin sur les centres de rétention administrative à propos de son livre « Comment on les enferme dans les centres de rétention de Paris à l'Empoisonnage et la Découverte ». Alors Louise, les prestataires privés, qui sont-ils et quel est le profil des prestataires justement ?
Eh bien, merci pour cette question parce que c'est effectivement un point très important. Les prestataires privés qui interviennent à Molnay, eh bien, en fait, leurs équipes sont quasi exclusivement constituées d'immigrés ou de descendants d'immigrés, dont une grande partie ont eux-mêmes ou elles-mêmes été sans papier à une époque ou risquent de le devenir parce qu'ils ont des statuts juridiques fragiles, précaires, notamment le statut d'étudiant étranger. Et on sait que c'est difficile, quand on a un statut d'étudiant, d'obtenir, par exemple, une carte de séjour en tant que travailleur. Et donc, en fait, cette situation, elle est telle que je me retrouve, par exemple, à un moment face à un homme qui s'appelle Alain, qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture, qui a son récépissé, mais n'a plus de nouvelles de la préfecture et donc me demande, enfin rit en fait de manière anxieuse en se demandant si il ne sera pas dans quelques semaines lui aussi de l'autre côté des barreaux. Et en fait, je crois que ce qui se joue là, ça peut paraître au premier abord paradoxal, étonnant, mais en fait ça ne l'est pas et ça n'est paradoxal qu'en apparence, parce qu'au contraire, ça dit quelque chose de la segmentation raciale du marché du travail, oui, et du fait que sont surreprésentés dans les franges les plus subalternes et les métiers les plus difficiles, les plus pénibles du marché du travail, les populations étrangères et ou descendants d'immigrés. Et ça me semble révélateur également des apories, des contradictions des politiques migratoires françaises, nationales, puisqu'on le voit, alors même que la lutte contre l'immigration irrégulière, on l'a dit tout à l'heure, est vraiment un leitmotiv, enfin, revient régulièrement sur le devant de la scène, eh bien en fait, une large part de l'économie, y compris dans les institutions publiques, repose sur la mise au travail de cette main-d'œuvre corvéable que constituent les étrangers. Par ailleurs, ça dit aussi autre chose, me semble-t-il, c'est que ça montre à quel point la frontière entre sans-papiers et personnes en situation étrangère, personnes étrangères en situation légale, à quel point cette frontière est ténue et poreuse. Parce qu'en fait, en regardant les trajectoires de ces prestataires de services que j'ai tous rencontrés, donc je fais une large place dans le livre à leurs paroles, à leurs histoires biographiques, à leur trajectoire. Et quand on regarde ces trajectoires, en fait, on voit que ce sont des personnes qui sont arrivées avec un visa pour les personnes étrangères. Elles sont arrivées avec un visa, elles ont eu des titres de séjour et à un moment donné, c'est simplement parce que soit la législation change, soit leur situation personnelle ne correspond plus aux normes attendues des législations qu'ils et elles se retrouvent sans papier et peuvent finalement aussi à un autre moment retrouver des papiers. Et donc on voit bien en fait comme voilà, ces statuts sont labiles, on passe de l'un à l'autre et ça met à mal l'opposition courante qui est faite entre personnes en situation légale qui seraient plus intégrées, etc., et sans papiers qui est une figure qui reste largement associée dans les représentations de sens commun à la délinquance, voire à la dangerosité. Mmh. Et en fait, ça montre l'inanité de cet amalgame entre étrangers et délinquants. Et il me semble que c'est particulièrement important à rappeler dans le contexte actuel. On se souvient qu'en janvier dernier, en écho à ce qui s'est passé aux États-Unis et aux dérives meurtrières de l'ICE, l'agence anti-immigration de Trump qui traque les sans-papiers et cherche à les expulser, en écho à cette situation-là, Arnaud Klarsfeld déclarait qu'il fallait faire la même chose en France, qu'il fallait organiser des rafles, et parlait des OQTF pour désigner des personnes, et donc substantivait le terme, alors que les OQTF, ça ne renvoie qu'à un papier, et contribue à cette association entre OQTF, donc le fait de ne pas avoir de papier, et la dangerosité. Alors même que si on prend les chiffres qui sont les chiffres de la Cour des comptes de 2024, donc on ne peut pas présumer là d'exagérer, et bien en fait, si on regarde les 500 000 OQTF qui ont été délivrés entre 2019 et 2022, eh bien, moins de 2% l'ont été suite à une condamnation pénale. Donc là encore, il faut le dire et le rappeler que voilà, il s'agit cette association entre étrangers, en particulier sans papiers et délinquants, n'est rien que de la poudre aux yeux.
Et puis en plus, l'État fabrique des sans-papiers. Il n'y a qu'à voir la dématérialisation des titres de séjour, les bugs informatiques et des gens qui attendaient le renouvellement des rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de leur titre de séjour se sont retrouvés sans papiers. À tel point que le ministre de l'Intérieur actuel est obligé d'engager 600 contractuels pour désengager les préfectures parce qu'il a été saisi par des parlementaires, par des associations qui disaient « c'est scandaleux, des gens qui sont là depuis 10-20 ans, qui ne demandent qu'à vivre » et à participer à l'économie, se retrouve sans papier. C'est une fabrique au sans-papier.
Absolument. C'est une fabrique de sans-papier. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en sciences sociales, on parle souvent de personnes illégalisées pour bien montrer que leur situation et le fait qu'ils et elles soient sans-papier, c'est simplement le produit de la législation, c'est le produit de politiques migratoires qui, à un moment donné, les met dans cette situation-là. Et là où je trouve que, enfin, ce qui est finalement intéressant dans l'enquête que j'ai menée et à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en fait, en travaillant sur les prestataires privés, en travaillant sur les travailleurs des centres de rétention, je me retrouve effectivement à documenter ce fait-là, à savoir que ces politiques de contrôle migratoire, elles produisent en effet des populations irrégulières, elles produisent de l'illégalité et elles viennent ainsi contribuer à remplir les stocks de sans-papiers qui par ailleurs constituent une main-d'œuvre largement exploitable et exploitée aujourd'hui.
Alors ça c'est un scoop parce que ceux qui luttent contre les centres de rétention, j'en fais partie, ou qui ont été dans les centres de rétention ne savent pas l'origine, le profil de ces personnes. Alors, ils travaillent pour des miettes. Et leurs salaires sont mais vraiment dérisoires.
Alors, c'est ça. Effectivement, on ne l'a pas encore précisé, mais pourquoi est-ce que c'est des étrangers ou des personnes issues de l'immigration, etc., qui se retrouvent là? C'est aussi parce qu'effectivement, on est face à des métiers qui sont des métiers très précarisés avec des contrats de travail. Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que dans ce centre de rétention interviennent des prestataires qui sont mandatés par les pouvoirs publics et ces prestataires ont eux-mêmes recours à leur propre sous-traitant, qui est une société de nettoyage qui s'occupe non seulement du nettoyage, mais qui s'occupe aussi de faire ce qu'ils ont appelé donc l'accueil le week-end. Et c'est parmi eux qu'il y a notamment tous ces étudiants étrangers que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, on se rend compte qu'à mesure qu'on descend dans les strates de la sous-traitance, eh bien, plus on descend dans ces strates et plus en fait, il y a des proximités de trajectoires entre effectivement ce personnel précarisé et les étrangers enfermés.
Voilà.
Exactement.
Ça a été un scoop parce que je m'y attendais pas à
moi
cette
non
information.
Ouais, moi non plus. C'était vraiment une grande surprise et en même temps ça n'a rien d'étonnant. C'est ça qui était paradoxal en fait. Ouais.
À croire que c'est fait exprès. Bon, ça c'est mon côté mauvais esprit. Bien.
Je comprends. Alors, qu'on se pose la question.
Voilà, la division du travail, tu le dis bien. Elle est, il y a des bases. Elle est sur des bases sociales, ethniques et genrées.
Oui. Pourquoi ? Eh bien parce que donc les policiers qui qui font principalement du contrôle et du contrôle à distance. On y reviendra. Donc ces policiers, ils sont des équipes qui sont constituées à 70% d'hommes. C'est ça, exactement. Même s'il y a une dynamique depuis une dizaine d'années avec un peu plus de féminisation de la police et de plus en plus de personnes racisées, ça reste quand même marginal. Ça reste très marginal. Après, il y a des intervenantes extérieures, je dis intervenantes parce que là, c'est à 90% des femmes, à savoir une équipe médicale, une équipe d'infirmières et un médecin qui est lui un homme qui vient une fois par jour, mais sinon il y a des infirmières. Il y a des acteurs associatifs qui sont là aussi des intervenantes. Et enfin, l'OFI, l'Office français d'intégration et de l'immigration, qui intervient également. Et ces trois entités-là, et ça va être intéressant pour se représenter bien quel est le rôle des prestataires privés, ces trois groupes d'intervenantes extérieures proposent en fait des permanences durant la journée dans leurs bureaux qui sont situés dans un long couloir. Et en fait, pour bien se représenter comment se joue et s'organise le travail au quotidien dans ces lieux, il faut voir que donc dans le centre que j'ai étudié, et là je précise que les marchés publics en rétention, et notamment les prestations de services, ils sont décidés localement. Donc ce n'est pas la même chose dans tous les centres de rétention. Et là, donc, dans celui que j'ai étudié à Molnay, ces prestataires privés, ils occupent un rôle central, à la fois spatialement et dans l'organisation du dispositif. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils travaillent, donc ce fameux lieu qui s'appelle indûment l'accueil, eh bien c'est une pièce qui est située à l'intersection entre la zone de détention dans laquelle les étrangers sont enfermés au quotidien, et le reste des bâtiments, notamment le couloir qui dessert les bureaux des intervenantes extérieures. Et donc, en fait, tout le personnel passe par les prestataires privés pour joindre les retenus, et à l'inverse, les retenus, pour la moindre question ou pour accéder aux permanences, etc., doivent passer par les prestataires privés. Si bien que ça leur donne un rôle
central,
absolument essentiel, exactement, parce qu'ils vont servir d'intermédiaires. Et en fait, en servant d'intermédiaire, ils servent aussi d'intermédiaire dans l'accès aux droits. Je pense par exemple à cet homme, cet agent d'accueil, donc comme on les appelle, à un moment donné...
Refuse si on lui manque de respect.
Exactement.
L'accès à l'infirmerie, l'accès aux associations et tout le reste.
Voilà. Et dit, lui, s'il m'emmerde, demain, il ne va pas à l'infirmerie. Et donc en fait, en faisant ça, eh bien, il empêche l'accès aux droits fondamentaux de la personne. Et s'il fait ça, c'est en partie une réaction à ses conditions de travail, qui sont des conditions de travail délétères. Donc là aussi, il y a un truc intéressant qui se joue. En observant les conditions de travail, ça aide à comprendre aussi les conditions d'enfermement, même si ça n'est évidemment pas lié qu'à ça, mais pour partie. Donc ils ont ce rôle d'intermédiaire. Ils jouent aussi un rôle d'interprète informel. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, il faut vraiment savoir que la question de la langue, et ça, c'est le cas dans les centres de rétention, mais ça l'est aussi dans les centres d'hébergement, dans plein d'institutions liées aux migrations, la question de la langue est vraiment à n'impenser. Et donc, au quotidien, les échanges se font toujours en français ou dans un anglais vraiment rudimentaire. Et seule l'association, parfois l'OFI, mais principalement l'association, a recours au service d'interprète par téléphone de temps en temps. Mais sinon, il y a beaucoup de difficultés liées à ces questions de la langue. Et en fait, comme une grande partie de ces prestataires de services parlent arabe, ce qui est aussi le cas d'une partie des retenus, eh bien, ils sont régulièrement sollicités pour jouer ce rôle informel d'interprète. Et là aussi, c'est très ambivalent, parce que d'un côté, ça permet de dénouer beaucoup de choses, mais d'un autre, évidemment, ça pose toute une série de problèmes, à la fois parce que leur niveau est ou d'arabe et de français est très inégal, très aléatoire, et puis parce que, par exemple, ils vont être sollicités par une infirmière, et donc ça pose des questions en termes de respect du secret médical, par exemple.
Tout à fait. La confidentialité n'est pas respectée.
C'est ça, exactement. Et puis enfin, ils jouent aussi un rôle de passeur du droit. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que ce sont des personnes qui vont tirer parti de leur expérience professionnelle, mais aussi parfois personnelle, liée à ces proximités de trajectoire. Je pense à cette femme, Rim, par exemple, qui à un moment va aider un homme qui va au tribunal administratif pour contester son expulsion. Et elle lui dit, mais en fait, elle-même, elle a été mariée pendant 4 ans à un homme sans papier et elle a aidé son époux à être régularisé en plaidant pour lui au tribunal. Et donc, elle va conseiller cet homme de faire la même chose et l'homme, finalement, sera libéré. Alors, qu'est-ce qui vient voilà, dans quelle mesure ça a joué, on ne le sait pas. Mais le fait est qu'il y a comme ça des ponts, des passerelles qui se mettent en place. Et je pense aussi à un autre exemple, lui,
Aïcha,
très parlant.
Avec celui de l'homosexuel.
Et ben, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire.
Je t'en prie, vas-y.
Je vois que t'as tout lu en détail. Hein.
J'ai lu deux fois.
C'est pas vrai.
Si.
Waouh.
C'est passionnant. Ah, je l'ai lu et relu, mais j'en avais les larmes aux yeux.
Ouais, ça me touche beaucoup.
Mais il faut. Ça m'a touchée énormément.
Mmh. Et Baïja, effectivement, elle se lie d'amitié avec un jeune homme. Et en fait, parce que justement, elle prend le temps de parler avec lui, ce que personne d'autre ne fait ou n'est en mesure de faire, eh bien, cet homme se confie à elle et lui dit qu'il est homosexuel. Ce qu'il n'a pas jugé utile, lui, de dire à d'autres, parce que ça relève de l'intime pour lui. Et en fait, c'est parce qu'elle a noué ce lien avec lui qu'elle peut ensuite le conseiller et lui dire « Mais non, mais en fait, avec ça, tu peux peut-être obtenir l'asile. Donc, fais-le valoir. » Et finalement, l'homme obtient l'asile et se voit libéré. Et ils sont devenus depuis amis.
C'est une belle histoire.
Oui.
Par contre, quand on se réfère à ce que écrit un de tes collègues, Alexis Speer, les gens qui travaillent dans l'administration, ils deviennent des soutiens de l'administration au fil du temps. Et quelque part, ces prestataires, ils veulent pas être des balances, mais ils veulent pas être non plus du côté des retenues. Donc, ils naviguent tout le temps dans une ligne Maginot, si j'ose dire.
Complètement. C'est exactement ça.
En fait, schizophrène.
Absolument. Ils sont vraiment pris entre deux feux parce qu'ils se sentent proches professionnellement et personnellement des retenus, pour la plupart, mais qu'ils sont effectivement enjoints à tenir leur rôle.
Ne serait-ce que pour ne pas perdre leur travail.
Exactement. Et donc, en fait, ils sont aussi amenés, malgré eux, à jouer un rôle d'auxiliaire de police. Donc après, chacun et chacune va le vivre différemment, va poser des seuils à certains endroits en fonction de leur trajectoire biographique, de leur position dans l'institution. Donc j'ai tout un chapitre consacré à cette question-là. Comment est-ce que chacun, chacune se positionne?
Mais surtout quand on est le meilleur élément du patron.
Exactement, toutes ces difficultés-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, leur travail, leur fiche de poste est tellement floue, tellement flottante, qu'en fait, ils sont aussi amenés à se substituer à la police, plus ou moins directement. Parfois directement, parce que la police va faire appel à eux, notamment quand il y a des émeutes pour identifier des leaders, en leur demandant de donner le nom de la personne qui a lancé l'émeute, etc. Et ou autre chose que j'ai vu aussi à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une pratique assez courante en rétention qui consiste à ne décider pour la police de ne pas afficher la veille au soir les vols, les expulsions qui auront lieu le lendemain.
Voilà.
Et donc parfois la police décide de faire ça parce qu'elle anticipe qu'une personne risque d'être trop réfractaire, de résister à son expulsion. Et donc ils vont la chercher dans ce cas le matin même aux aurores. Et donc pour essayer d'identifier l'état d'esprit d'un retenu, eh bien, la police régulièrement demande aussi, sollicite ses prestataires. Parce qu'en fait, ces prestataires connaissent les retenues, ce qui n'est pas le cas de la police. Et donc, là aussi, évidemment, les employés, en fonction de leur éthique et des frontières qu'ils se posent, vont plus ou moins accepter. Mais parfois, ça leur est difficile de refuser, au risque de mettre en cause leur professionnalisme.
Tout à fait. Bon, les policiers ne sont pas au contact des retenues, sauf quand il y a des clashs, mais parce qu'il y a les prestataires, justement. Et ça a été fait exprès.
Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas?
C'est le sentiment que ça donne.
J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est de voir ce que ça produit, en fait. Est-ce que ça produit, effectivement, c'est une forme de déconnexion des policiers et qui pose et ouvre pas mal de problèmes. Alors, peut-être un mot déjà pour dire qui sont ces policiers qui travaillent en rétention, là, dans le centre de Molnay. En fait, c'est vraiment principalement, enfin quasi uniquement, dans les brigades, de jeunes sortant de l'école de police qui ont été mal classés à l'issue du concours final de l'école de police. Et donc, ils n'ont pas choisi d'être en rétention, ou alors ils l'ont choisi par défaut pour éviter les services jugés soit ennuyeux comme faire la plante verte devant les préfectures, soit les services jugés à risque comme par exemple les commissariats du 93 où ils sont moins assurés d'obtenir leur titularisation après leur année de stage en tant que fonctionnaire. Et donc en fait ils se retrouvent là sans rien connaître au centre de rétention, et les centres de rétention sont par ailleurs un service très dévalorisé dans la hiérarchie des normes policières. Et donc ça nourrit à la fois beaucoup de généralisation, puisqu'il y a beaucoup d'ignorance, et ça nourrit aussi de la frustration. Mmh. Et donc tout ça est quand même propice en fait à des situations explosives, et le recours à des sous-traitants vient renforcer ça, parce que ça déconnecte encore plus les policiers des étrangers retenus. En fait, les policiers, ils savent très peu de choses de qui sont ces gens enfermés. Et donc ça ils ont une image très globalisante. C'est hyper homogénéisant, en fait. Parce qu'ils ne savent pas quelles ont été les histoires de vie de ces personnes-là, parce qu'ils ne leur parlent pas ou peu. En fait, ils sont principalement assignés à des tâches de contrôle à distance, derrière les vidéosurveillances, les images de la vidéosurveillance, à des points de contrôle qui sont dans des guérites autour des cours qui sont elles-mêmes grillagées jusqu'au plafond, si bien que exactement que des retenus l'appellent la cage. Voilà, donc ils sont à distance et en fait ils sont du coup relativement préservés, prémunis de la violence que représente l'enfermement pour les étrangers qui y sont maintenus. Et par ailleurs, comme effectivement ils n'interviennent dans le centre quasiment que quand il y a des émeutes, des altercations, etc., bah ça aussi, ça vient nourrir cette idée d'une supposée dangerosité des retenus. Et ce d'autant plus qu'ils ont peu de formation ou pas, et notamment l'une à laquelle j'ai assisté et que je décris dans l'ouvrage, qui en fait était dispensée par un haut gradé qui diffusait des extraits de la vidéosurveillance du centre, et qui étaient des extraits dans lesquels on voit en fait des policiers mis en difficulté dans des situations d'émeute. Et l'objectif, c'était de regarder ce qui n'allait pas dans les réactions des policiers pour voilà, avoir un regard constructif sur les manières de maintenir l'ordre. Mais ces images-là sont diffusées sans aucune remise en contexte sur ce qui s'est passé avant, après, les raisons, les motifs de l'émeute, etc. Et en fait, là aussi, ça nourrit à la fois l'inquiétude et le ressentiment de ces nouveaux venus, de ces nouvelles recrues, de ces policiers qui sortent de là en disant « mais c'est l'enfer, où est-ce qu'on est tombé ? Ils sont tous fous ». Et en fait, ça fait que un des hauts gradés du centre me dit même, franchement, comme ça, en fait, il est difficile de ne pas devenir raciste en travaillant en rétention.
Ça, bon, service pour autrui, service sur autrui. Je laisse le soin aux auditeurs qui souhaiteraient avoir le livre de lire, c'est passionnant. Cette partie-là, en tout cas, est passionnante. Je voudrais que on conclue cette partie-là par le fait qu'il y a, à un moment donné, des policiers qui se disent la BAC des CRA.
Oui. Eh bien, ça va dans le sens de ce que j'étais en train de dire, à savoir que pour ces policiers qui sortent de l'école de police et à qui on a promis un travail d'aller chasser les voleurs, protéger la nation, etc., en fait, ils vivent pour une partie d'entre eux comme un déclassement, fait de se retrouver dans ce service-là. Et donc, il y a comme un besoin de rétablir, de réaffirmer leur légitimité en montrant qu'ils servent à quelque chose, quitte à aller au conflit, quitte à jouer les cow-boys, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Et donc, il y a effectivement une partie des policiers et un groupe en particulier qui se surnomme lui-même la BAC du CRA et qui a effectivement pour réputation, et que j'ai vu à l'œuvre et je le décris dans l'ouvrage, une propension en fait à provoquer les retenus avec des stratégies même très claires et dont ils me font part. Pour provoquer les retenus et ensuite être en mesure de les sanctionner, de les réprimer et, autrement dit, de se donner l'impression d'être utile et de réaffirmer comme ça leur légitimité.
Alors, Louise, là, nous avons vu tout ce qui est le gros de ton enquête sur la France. tout n'est pas dit, parce qu'il faut donner envie aux gens de lire le livre et de lire la suite. Mais nous allons passer dans la troisième partie sur Lesbos et Lampedusa. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name.
In the KGB, so no funny business. You already are.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie, hélas, de l'excellente émission avec Louise Tassin pour son excellentissime livre « Comment les enferme dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa ?» chez La Découverte dans la collection « L'envers des faits ». Alors, tu es allé faire des séjours à Lampedusa et à Lesbos. On va commencer par Lampedusa. Rappelle-nous cette île, parce qu'on n'entend pas aux informations, mais on oublie de préciser ce que c'est que Lampedusa.
Absolument. Lampedusa, c'est une île qui est bien connue aujourd'hui, ou en tout cas qui semble bien connue, mais qui est en fait un peu méconnue, et c'est ce que j'explore dans le livre. Elle semble bien connue parce qu'elle est effectivement régulièrement à la une des médias, en Italie, mais même en Europe, et elle est devenue un symbole en fait, des arrivées de migrants par la Méditerranée, en mer, sur des embarcations de fortune dans l'Union européenne. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, Lampedusa n'est pas naturellement un lieu de passage migratoire, mais elle a été construite en fait comme une île frontière. Et ça, c'est très important de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les arrivées sont relativement récentes, elles datent des années 90, et elles sont le fruit des politiques migratoires et des politiques de fermeture, en fait, d'accès aux voies légales, d'accès en Europe par les voies légales, et notamment aussi de la sécurisation accrue du détroit de Gibraltar, qui, quand cette route migratoire s'est fermée, bah, ça a entraîné une recomposition des routes migratoires. Et donc, les arrivées par la mer Méditerranée depuis les côtes tunisiennes et libyennes se sont, à ce moment-là, renforcées. Et donc, il y a ça, mais il n'y a pas non plus que ça. Parce que, par exemple, à côté de Lampedusa, il y a une île qui s'appelle Linosa, il y en a une autre qui s'appelle Pantelleria. Et en fait, ces deux îles-là, elles n'ont pas connu les mêmes phénomènes migratoires et elles ne sont pas aujourd'hui associés comme Lampedusa à ces arrivées de migrants. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, si Lampedusa a été construite comme une île frontière, c'est parce qu'elle a été progressivement militarisée. En fait, au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, il y a une base de l'OTAN qui a été installée sur l'île de Lampedusa. Et donc, quand les arrivées de migrants se sont multipliées à la fin des années 90, eh bien en fait, l'île offrait un avant-poste symbolique, mais aussi matériel, très pratique pour construire un centre de rétention et pour y faire venir des forces de l'ordre. Et donc, en fait, c'est ce qui s'est passé avec la construction d'un des premiers centres de rétention d'Italie sur l'île en 1998. Et peu à peu, toutes les embarcations qui ont été interceptées en mer ont été ramenées à Lampedusa. Et donc, il y a certes quelques bateaux qui arrivent directement depuis notamment les côtes de la Tunisie, mais sinon, c'est vraiment le fruit d'une militarisation de cette île et ce déploiement en fait, de moyens militaires et d'effectifs humains, policiers, sur cette île pour aller intercepter et enfermer les migrants. Et en fait, l'arrivée, la construction d'un centre de rétention a été perçue de manière très ambivalente par les habitants de l'île. Pourquoi ? Eh bien parce que en fait, le centre de rétention, ça fixait sur place une population que les habitants voulaient voir circuler. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient voir circuler cette population ? Eh bien parce que l'île est devenue, dans les années 90, en même temps qu'elle devenait un lieu de passage migratoire, elle est devenue un lieu touristique. En fait, c'était une île qui avait longtemps vécu principalement de la pêche, notamment du commerce d'éponges. Et en fait, en 86, il y a un bombardement raté de l'OTAN qui fait venir plein de journalistes. Et en fait, on se rend compte de la beauté des paysages de l'île. Il y a toute une partie de l'île qui est classée site naturel avec des criques aux eaux cristallines, etc. Et donc, en fait, les acteurs du tourisme, de la restauration, de l'hébergement, de l'hôtellerie, sont vent debout contre la construction de ce centre de rétention et puis plus largement contre la venue des migrants. Et en même temps, c'est paradoxal parce que ce centre de rétention, il permet aussi de maintenir les migrants à l'abri des regards. Il est installé au bout d'une route qui ne dessert que lui, au fond d'un vallon. Les personnes qui débarquent sur l'île, ou plutôt qui sont débarquées par les gardes-côtes, elles sont transférées immédiatement par bus dans ce centre de rétention et ensuite transférées sur le continent, ou plutôt en Sicile, vers d'autres structures. Donc finalement, souvent, en fait, c'est une espèce de présence à la fois très vive et complètement invisible, cette présence des migrants à Lampedusa. Et là où c'est ambivalent, c'est qu'en fait, les acteurs du tourisme et de la restauration y bénéficient aussi de la présence hors saison de forces de l'ordre, mais également d'organisations internationales et de toute une autre forme de tourisme qui serait du tourisme migratoire, qui est lié à la présence de ce centre de rétention. Et ce centre de rétention, il devient aussi et surtout un foyer d'emploi pour les habitants de l'île.
Il faut préciser aussi que Lampedusa a été une ex-colonie pénitentiaire. Donc, vraiment, ils ont bien choisi le lieu.
C'est ça. C'était non seulement effectivement pratique d'un point de vue matériel, en raison de cette militarisation que j'évoquais à l'instant, mais aussi sur le plan symbolique, puisqu'effectivement, Lampedusa a été historiquement une colonie pénitentiaire. Et de fait, il s'agit d'une île qui est toute petite. Elle fait 22 km², donc c'est vraiment rien du tout. Et en fait, quand on regarde un peu l'histoire de l'île, notamment en 2011, où il y a eu beaucoup d'arrivées après les révoltes arabes, et ça a donné l'impression dans les médias d'un sentiment d'invasion. Marine Le Le Pen s'est même déplacé sur l'île, etc. Mais en fait,
le
et le pape également, voilà, c'est devenu un haut lieu pour plein d'acteurs différents. Et en fait, en 2011, cette image d'invasion, elle a été créée de toutes pièces par une décision de Silvio Berlusconi qui a été de stopper les transferts, si bien que les gens arrivaient, mais n'étaient plus transférés ensuite vers la Sicile, ce qui a évidemment créé une situation explosive puisque l'île compte entre 5 et 6 000 habitants et qu'il y a eu autant, sinon plus à un moment, de Tunisiens présents à la même période.
Alors, c'est un tiers-lieu qui... C'est pardon. Ce sont des employés précaires, eux aussi, qui gèrent le centre. Mais il y a une différence par rapport à la France.
Oui. Alors, ce qu'il y a de commun, c'est effectivement cette externalisation à des acteurs privés. Parce qu'en Italie, de façon générale, ça vaut pour les centres de rétention, mais même pour les centres d'hébergement de demandeurs d'asile, etc. Eh bien, la gestion de ces centres, elle est entièrement sous-traitée, et donc pas seulement quelques prestations, c'est vraiment y compris la direction, le personnel médico-social, etc. Tout cela est sous-traité à des acteurs privés qui peuvent être lucratifs ou non lucratifs, et ça s'inscrit dans l'histoire italienne où l'action de la gestion des populations pauvres, pour le dire très vite, a largement été confiée à ce qu'on appelle le tiers secteur, qui est un peu l'équivalent de l'économie sociale et solidaire. Et donc à Lampedusa, moi, quand je mène mon enquête, le centre, il est géré par une coopérative sociale, mais en fait, elle n'a de coopératif et de social que le nom.
Ah,
et
oui.
Elle fonctionne vraiment comme une entreprise
privée
dans ses pires, sous ses pires atours et dans ses pires excès, exactement, avec effectivement une précarisation très forte de la main-d'œuvre employée, mais qui, contrairement à la France, n'est en rien une population immigrée, mais bien une population précaire locale. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une île effectivement dont l'économie repose beaucoup sur le tourisme. C'est une île qui est quand même très enclavée, avec très peu d'opportunités d'emploi et beaucoup de gens qui sont limités à des formes de travail saisonniers, souvent très précaires, et pour qui ça a représenté en fait une opportunité d'emploi. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, comme ils sont eux-mêmes dans des situations très difficiles, et bien en fait, le fait de travailler auprès de cette population qui, de leur point de vue, bénéficie d'une attention importante, voire de financement lié à l'Union européenne, etc., ça nourrit en fait des formes de concurrence sociale, ça nourrit des formes de rejet, des formes de racisme très affirmées. Et donc, quand on étudie un peu cette île, on se rend compte que même si cette île a été associée à certaines périodes à l'image d'une île bienveillante, accueillante, hospitalière, on se rend compte que si les migrants sont les bienvenus, ils ne le sont que à condition de rester à leur place, c'est-à-dire derrière des murs et avec une certaine forme de docilité.
Voilà. Alors, il y a eu 6,8 millions pour restaurer le centre parce qu'il a été incendié, il faut le dire, et 9 millions par mois pour les opérations en mer. Ça, tu le dis bien, en tout, au niveau européen. Donc, c'est une île en grande difficulté économique structurelle, ça, on l'a dit, et il y a donc deux groupes de professionnels, il y a deux groupes qui gèrent le centre, des professionnels et des opérateurs. Donc, tu as... Comment tu as réussi à, très rapidement, parce qu'il faut qu'on puisse aborder Lesbos, comment tu as réussi, tu l'expliques bien dans ton livre, à entrer en contact et à rentrer dans le centre. Finalement, Lampedusa a été moins difficile que la région parisienne.
Oui, c'est étonnant. Alors, même si ça n'a pas non plus été évident, parce que ça a fait une partie de plaisir. Ouais, j'ai demandé là aussi sous différentes casquettes, parce qu'au début, on m'avait conseillé de le faire plutôt par les associations. Donc au début, j'ai demandé notamment en tant que par le biais de Migre Europe, de l'Archi, qui est une association italienne, etc., en pensant que je pourrais plus facilement y entrer. Ça n'a pas été possible. Donc alors là, j'ai rivalisé d'idées différentes. Enfin, je suis rentrée avec le prêtre de Lille, par exemple, qui essayait d'entrer dans le centre parce qu'il essayait d'obtenir des informations sur des proches de personnes qui étaient disparues en mer Méditerranée. Enfin, donc voilà. Et puis après, surtout, j'ai essayé en fait aussi de rencontrer des gens qui y travaillaient. Et là, ça a été vraiment compliqué parce que à la fois, tout le monde a un cousin ou un ami d'amis qui travaille dans le centre, puisque c'est petit. Et en même temps, ces gens ne veulent pas parler, pas du tout. Parce qu'ils sont tenus, en fait, à un devoir de réserve. Et ça fait écho à ce que j'ai vu en France aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un... On ne l'a pas trop dit, parce qu'on ne peut pas tout dire. Il faut que les gens lisent le livre.
Mais oui.
Il s'agit d'un personnel qui est largement silencieux, en fait.
Enfin,
et ça, c'est important. Et les voix sont muselées. Les quelques tentatives contestataires sont vite réprimées. Et donc, effectivement, une de mes difficultés, ça a été de convaincre ces gens-là. J'y suis arrivée petit à petit. à petit. Et finalement, j'ai, à force d'efforts et de relances, obtenu l'autorisation d'y entrer, mais dans un cadre assez particulier, et alors que je ne m'y attendais pas, parce qu'en fait, il y a eu un scandale public qui était des images qui ont été tournées de façon clandestine par un homme qui était enfermé dans le centre de rétention. Et en fait, c'était une pratique... très courante, et j'ai d'ailleurs appris récemment par un ami à moi que 5 ans plus tôt ça avait déjà eu lieu, à savoir le fait de mettre les hommes nus dans la cour à l'extérieur en plein mois de décembre et de les asperger à coups de jets puissants anti-galles. Contre la gale, voilà, les uns devant les autres. Et en fait, ces images ont fuité, ont suscité des réactions d'indignation générale, mais qui étaient, pour ainsi dire, des larmes de crocodile, parce que ce sont des pratiques qui étaient connues et voilà, pratiquées depuis longtemps. Et ça a abouti au licenciement de l'organisation qui, à ce moment-là, était gestionnaire de la structure. Mais celle qui a été choisie pour le remplacer n'est autre qu'une autre organisation qui, une dizaine d'années plus tôt, avait elle-même été évincée après un autre scandale public identifié par un journaliste. Et donc ça, ce que ça montre et que j'essaie d'explorer aussi dans le livre, c'est aussi les enjeux symboliques liés au rôle de ces sous-traitants, de cette externalisation à des acteurs privés, qui est telle que voilà, le gouvernement peut s'approprier les succès de certaines organisations quand elles ont bonne presse et à l'inverse, s'en débarrasser quand il y a des situations... jugée indigne ou qui suscite en tout cas des réactions d'hostilité.
Alors, venons-en à Lesbos. Alors, Lesbos, je suis contente d'avoir vu le mot libertaire à mon avis dans l'explication de Lesbos, de la présentation de Lesbos. Parce que Lesbos, bon, tu vas présenter le cadre, mais il y a eu ce que tu as appelé des solutions alternatives. Mm-mm. Donc... Alors, oui. Commence par présenter Lesbos.
Alors, Lesbos, c'est effectivement une situation assez différente parce que alors, ça m'a permis d'observer une autre forme de délégation de la gestion ou plutôt de la non-gestion des migrants, mais cette fois-ci, non pas à des organisations, mais à des collectifs locaux, à des collectifs militants. Et ce, face aux défaillances en fait, des autorités étatiques. Parce que quand j'y mène mon enquête, en fait, les autorités de police et les gardes-côtes se renvoient mutuellement la balle et personne en fait, ne veut prendre en charge les migrants qui débarquent sur l'île. Et donc, ce sont des habitants, et des habitants de tous bords, effectivement. Alors,
ça va
voilà,
des politiquement, anarchistes aux bourgeois.
Exactement, à la bourgeoisie catholique locale, et qui, en fait, tous ensemble, peu à peu, vont s'organiser.
Et gérer le centre.
Alors voilà, d'abord, ils gèrent, alors ils interviennent dans des lieux d'enfermement, notamment le port qui est utilisé de manière assez improvisée comme... un lieu d'enfermement, mais il n'y a personne qui leur prévoit à manger. Donc, en fait, c'est des habitants qui leur font à manger, qui leur ramènent, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de débrouilles. Et puis, finalement, à partir de 2012, il y a des collectifs qui s'organisent pour créer un camp, un nouveau lieu qui s'appelle PICPA, et qui est un camp alternatif, autogéré, à la fois par ses habitants et puis par les personnes en migration qui arrivent exilées et qui vont s'en emparer. Et en fait, c'est intéressant parce que ce que ça montre, c'est qu'aux frontières de l'Europe, dans des situations qui sont aussi ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il faut aussi se représenter que l'île de Lesbos, elle finit à un moment par faire office de prison à ciel ouvert.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, les étrangers ne peuvent pas la quitter, les migrants ne peuvent pas la quitter sans avoir un document officiel attestant de leur identité, qui n'est autre que l'équivalent d'une obligation de quitter le territoire.
Tout à fait.
Et ça donne lieu à des situations assez
ubuesques.
Voilà, exactement. Où il y a en fait des groupes d'hommes et de femmes qui en fait sont renvoyés des gardes-côtes vers la police, vers un centre de rétention naissant, mais où en fait personne ne veut d'eux. Et finalement, ce sont même des militants, parfois parmi les plus radicaux, qui en fait ont le numéro de téléphone de la police et demandent à la police de les arrêter pour que en fait, ces gens puissent avoir ce document qui est finalement le sésame permettant de s'échapper de l'île. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est une situation vraiment très compliquée. Mais je trouvais ça intéressant parce que sur la question de l'intervention aussi dans les lieux d'enfermement, c'est assez éclairant par rapport au débat qu'on a, nous, en France, entre les associations plus institutionnelles qui interviennent en rétention et les collectifs plus radicaux, plus militants, qui, eux, militent plus de l'extérieur. Et là, moi, je me suis retrouvée, en fait, à Lesbos avec des militants très radicaux qui, de facto, venaient, en fait, travailler, intervenir dans les centres.
Parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait une urgence.
Exactement. C'est-à-dire
qu'il y avait... Et une défaillance de l'État catastrophique.
Exactement. Telle qu'en fait, on ne pouvait pas ne pas intervenir. On ne pouvait pas ne pas intervenir. Et ça redoublait aussi par une situation de crise continue et permanente qui fait que c'est aussi des opportunités de travail qui font sens,
voilà.
Y compris quand on a des positions radicales. Ce qui pose un tas de questions que j'explore dans le livre sur des formes aussi d'accoutumance par rapport au quand on travaille en rétention, par rapport à ce qu'on observe, où on se retrouve à avoir parfois un rapport un peu instrumental à certains cas, à certaines situations. Ce qui pousse une grande partie des militants aussi justement à partir en fait et à quitter ce poste. Et on en revient aux alternatives parce que c'est vrai que des projets comme PICPA, alors qui évidemment ne sont pas dénués de difficultés, qui restent aussi pris dans l'étau de ce système policier parce qu'il y a toujours cette dépendance à ce document juridique contraignant. Donc voilà, tout ça reste ambivalent, mais ça montre quand même que dans certaines conditions, quand on s'auto-organise, quand des habitants et des militants prennent le relais, il y a d'autres formes d'accueil qui sont possibles.
Et tu as été une participante observante, PICPA.
Oui, alors ça a été très différent, effectivement, parce que autant dans le cas français, je n'ai jamais participé à ce que j'observais, sauf dans des cas où, d'un point de vue éthique, il était nécessaire d'interférer pour notamment dénouer des situations potentiellement problématiques. Autant à Lesbos, en fait, j'ai vraiment accompagné les militants dans leur activité et donc j'ai participé tout en observant.
Alors, quand on voit les efforts, les sommes, le problème de la rétention, on en revient à se poser la question de pourquoi ces personnes sont amenées à quitter leur maison, leur pays, leur territoire, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des politiques qui les maintiendraient sur place. Donc cet argent ne serait-il pas mieux utilisé à créer des écoles, des hôpitaux, plutôt que de les donner à des potentats et des tyrans qui vont les mettre dans les paradis fiscaux?
Alors, cette question, elle est effectivement très légitime et je laisse aux lectrices et aux lecteurs le soin d'y répondre à la lecture de l'ouvrage. Mais ce qui est sûr, quand on travaille sur un centre de rétention, sur les centres de rétention dans l'Union européenne, c'est qu'on ne peut que constater à quel point ces dispositifs sont effectivement coûteux, inefficaces, ont des conséquences absolument délétères du point de vue de la santé morale et physique et pourtant ne font que continuer à être développés. La durée de rétention ne cesse de s'allonger. Et ce, alors même que, pour le coup, les associations ont très bien montré, et ça depuis des décennies, que quand expulsion il y a, elle se déroule dans les 30 à 40 premiers jours de la rétention. Parce voilà. Qu'une expulsion, il faut le rappeler, elle est conditionnée à deux critères qui sont l'identification du pays d'origine de la personne et l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités de ce pays. Et en fait, ces laissez-passer, ils font l'objet de négociations à l'échelle bilatérale où effectivement un État va échanger contre un autre des formes d'aide au développement ou autres financements contre des laissez-passer. Donc ça se joue à une toute autre échelle et ça interroge effectivement la question de où on met l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi. Ce qu'on voit quand on regarde les centres de rétention, c'est qu'il s'agit pour beaucoup d'une politique spectacle au sens où il s'agit de faire passer un message à la fois à destination des exilés et surtout à destination de l'électorat dans une logique de poursuite d'intérêts électoraux dans un contexte de montée des extrêmes droites où il s'agit de montrer une forme de promesse et d'indice de la fermeté affichée des États, alors même que très concrètement ce sont des lieux qui produisent surtout des situations explosives et encouragent en fait et sont des lieux systématisés d'atteinte aux droits.
Merci Louise. Alors, je rappelle ton livre, Comment on les enferme, dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa. Je ne sais pas si mon technicien va me dire combien de minutes il nous reste. Bien. Alors, pourquoi j'ai pris la décision de te recevoir? Parce que ton livre est excellent. Je remercie Carole Lozano, l'attachée de presse militante, parce qu'il faut être militant pour placer les livres journaliste par journaliste, animateur par animateur, de me l'avoir envoyé en pensant que ça allait m'intéresser. J'ai subi une rétention administrative. Je savais qu'en faisant cette rétention, j'allais sauver des personnes parce que, contrairement à elle, j'avais des papiers et ça permettait d'annuler la rétention. C'était à l'issue de l'expulsion de l'église Saint-Bernard et donc j'ai passé une journée de rétention au CRA de Vincennes. Donc, je passe sur les détails. Disons que c'est éprouvant, c'est inhumain. Et je n'imagine pas dans quel état, tous les jours, sont les gens dans les centres de rétention. Parce que moi-même, je n'ai vécu qu'une journée et je savais que j'allais en sortir le soir. Mmh. Et que j'allais faire annuler l'expulsion de Saint-Bernard. Mmh. Voilà. Donc, je n'imagine pas. Et ce livre a été poignant à la lecture pour moi. Parce qu'il m'a rappelé les gens que j'ai côtoyés ce jour-là. Et que je continue à côtoyer dans mes permanences. Pour les empêcher d'y aller. Et ceux qui en sortent pour se faire régulariser une fois qu'on a obtenu qu'ils ne soient pas plus retenus dans ces centres de rétention. Donc c'est humainement bouleversant. Et que quelqu'un comme toi ait pris autant de temps, autant d'énergie pour faire ce travail, eh bien écoute, je crois que M. Bourdieu, de là où il doit être content d'avoir, d'avoir des héritières de ton acabit. Parce que la sociologie, c'est un sport de combat et tu en es l'illustration manifeste. Merci Louise.
Un immense merci à toi. Merci beaucoup et merci de finir sur ce témoignage.
Merci. Merci à Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission.
Merci.
Et je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizis tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve.